Alors pourquoi ce discours finalement nouveau, récent, sur la décroissance? Eh bien, il faut bien dire que pendant les 40 années, les 40 dernières années, la critique du développement, ça fait, je crois, à peu près 40 ans que je passe ma vie intellectuelle à critiquer le développement, cette critique du développement était surtout la critique du développement tel qu'il avait été conçu en 49 par le président Truman dans son point 4, dans son adresse sur l'état de l'Union, par son point 4 qui lançait le grand mouvement de l'assistance technique occidentale, et le Nord allait développer les pays du Sud. Et c'est là que, pour la première fois, les pays du Sud ont été rassemblés dans un ensemble sous-développé. Et donc cette critique du développement débouchait en fait sur l'alternative pour le Sud. Et l'alternative pour le Sud, c'était l'auto-organisation de sociétés ou d'économies vernaculaires. C'est à ça que j'avais consacré mon livre « L'autre Afrique entre don et marché ». Certes, pendant cette période, on ne se désintéressait pas totalement des alternatives au Nord, mais c'était des alternatives au pluriel, c'est-à-dire on s'intéressait à des initiatives alternatives comme les systèmes d'échange locaux, comme les coopératives de production, comme Ambiance Bois, Art de Laine, etc., regroupées au sein du sympathique repas, réseau d'échange des pratiques alternatives et solidaires, etc. Mais on n'avait pas de raison, puisqu'on était embarqué dans le vaisseau de la croissance sans avoir de possibilité de songer à en partir, on n'avait pas de raison véritable de s'intéresser au Nord, puisque le développement, tous ceux qui travaillaient sur le développement travaillaient sur le Sud. Donc on ne cherchait pas véritablement à réfléchir à une alternative, à un après-développement, à une alternative sociétale. Il s'est trouvé que cette critique du développement, critique théorique, qui au fond était aussi critique de la croissance dans ses racines, de l'imaginaire de l'Occident, cette critique, pendant 40 ans, on peut bien dire qu'on l'a prêchée dans le désert, et soudain, elle a marché, ou elle a accroché, un indice, c'est donc je suis, on ne m'a pas présenté, m'a présenté comme professeur d'économie, mais enfin, je suis président de cette petite secte qui s'appelle la Ligne d'Horizon, les Amis de François Partant, qui s'est transformé maintenant en un réseau assez puissant, qui s'appelle l'EuroCAD, réseau des objecteurs de croissance pour un après-développement, qui regroupe la revue L'Écologiste, la revue Silence, l'Institut pour la décroissance de Saint-Étienne, la revue Casseurs de Pub et un certain nombre d'autres associations, donc qui a organisé ce colloque de Lyon récemment sur la décroissance, qui a eu un énorme succès. J'ai rien touché, parce qu'on m'a dit de pas toucher.
On m'a demandé de vous prévenir qu'on pouvait avoir quelques problèmes de lumière dans cette amphi. Bon, c'est comme ça, ça dure bien.
Donc, nous avons, tout a commencé au fond à peu près, il y a deux ans, quand nous avons organisé, la Ligne d'Horizon a organisé, en partenariat avec d'autres et avec le soutien du monde Duclos, a organisé un colloque « Défaire le développement, refaire le monde », dont certains ont déjà acheté les actes à l'entrée, et qui a été à l'UNESCO, qui a été un énorme succès, dans le sens qu'il y avait 400 places, on en a inscrit 700, pendant 3 jours 700 personnes, et à la fin il a fallu chasser les gens, il y a eu des centaines de frustrés qui n'ont pas pu rentrer, certains même avaient payé leur inscription, mais ils n'étaient pas sur la liste, enfin bref, ça fait beaucoup de vagues. Donc ça c'est... Mais malgré tout, bon, jamais auparavant on n'aurait pu réunir autant de monde, mais 700, comme me disait un collègue à la fin du colloque de Lyon, on était 300 parce que la salle ne pouvait pas contenir plus de 340 personnes, comment passer de 300 à 3 millions, éventuellement à plus, bon, c'est pas encore... Mais enfin, c'est déjà un début. Alors, pourquoi ce succès? Je pense que, d'une part, la crise de l'environnement interpelle de plus en plus de gens, et aussi la mondialisation fait que la farce du développement durable, et ce qui se cache réellement derrière, concerne désormais aussi bien le Nord que le Sud. Donc on est interpellé maintenant sur qu'est-ce que vous proposez pour le Nord. Alors entendons-nous bien, la décroissance, c'est une nécessité, mais au départ, bien sûr, puisque nous sommes tous dans une société de croissance et que notre imaginaire a été construit là-dedans, au départ, ça n'est pas un idéal. Ça n'est pas non plus l'unique objectif d'une société de l'après-développement et d'un autre monde possible, ou de d'autres mondes possibles. Mais, puisque c'est une nécessité, faisons de nécessité vertu et concevons pour les sociétés du Nord la décroissance comme un objectif dont on peut tirer, dont on pourrait tirer des avantages. Alors oui, mais vous avez du culot quand même de préconiser la décroissance, etc. Et les pays du Sud qui n'ont pas encore commencé leur croissance, etc. Alors, en ce qui concerne les pays du Sud, cet objectif n'est pas vraiment à l'ordre du jour, au moins pour celles qui ne sont pas vraiment, qui, si elles sont traversées par l'idéologie de la croissance, ne sont pas vraiment des sociétés de croissance. Mais dans la mesure où elles sont des sociétés de croissance, je pense à la Chine qui fait tout son possible pour devenir une société de croissance, eh bien effectivement, il est aussi urgent de penser à une société de décroissance afin d'éviter de s'engager dans l'impasse où nous sommes profondément engagés. Il s'agirait en quelque sorte pour ces sociétés de se désenvelopper, c'est-à-dire d'enlever les obstacles sur le chemin qui leur permettrait de s'épanouir autrement. Donc le mot d'ordre de décroissance a surtout pour objet, je n'ai pas besoin de ça parce que je suis là, a surtout pour objet de marquer fortement l'abandon de cet objectif insensé de la croissance pour la croissance, objectif dont le moteur n'est autre que la recherche effrénée du profit par les détenteurs de capital. Bien évidemment, la décroissance ne vise pas à un renversement caricatural qui consisterait à prôner la décroissance pour la décroissance. Et en particulier, méfions-nous d'un contresens, la décroissance n'est pas la croissance négative, ce qui serait d'ailleurs une expression antinomique, puisque croissance négative, ça voudrait dire en quelque sorte avancer en reculant, mais ça montre bien, puisqu'on en parle, à quel point l'imaginaire de la croissance nous structure. Oui. Pourquoi la décroissance n'est pas la croissance négative? Tout simplement parce qu'on sait, et on le sait particulièrement bien en ce moment, que sans entrer en décroissance, le simple ralentissement de la croissance, la décélération de la croissance que nous vivons, plonge nos sociétés dans un grand désarroi, parce que ça accroît le chômage, parce que accroissant le chômage, ça diminue les recettes fiscales, les recettes budgétaires, parce que diminuant les recettes fiscales, ça oblige à faire des plans d'austérité. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait des plans d'austérité? On coupe tout ce qui semble superflu, superflu qui est ce qui permet de rendre la vie supportable. On coupe les budgets sociaux, la santé, l'éducation, la recherche et bien sûr l'environnement, qui est un luxe qu'on peut s'offrir quand il y a une croissance vigoureuse. Donc c'est une catastrophe. Alors si le simple ralentissement de la croissance est une catastrophe, imaginons que serait une croissance négative. On peut transposer la formule d'Anna Arendt qui disait « Il n'y a rien de pire qu'une société travailliste sans travail ». Mais précisément, la société travailliste, c'est la société de croissance. Et on peut dire qu'il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance. Donc remettre en cause la croissance, c'est remettre en cause la société de croissance. Ça n'est pas supprimer, diminuer la croissance dans la société telle qu'elle est, ce qui serait catastrophique, c'est concevoir une autre société, une société de décroissance. Et c'est précisément parce qu'il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance que la gauche institutionnelle, et même l'autre, faute d'oser la décolonisation de l'imaginaire, est condamné inéluctablement au social-libéralisme mis en œuvre par Jospin quand il était au pouvoir, mis en œuvre par Blair, mis en œuvre par Schröder, hein, et demain peut-être mis en œuvre par Fabius. La décroissance n'est donc envisageable que dans une société de décroissance. Alors il convient d'en préciser les contours, hein, préciser les contours de ce que pourrait être une société de décroissance. Celle-ci suppose une diminution drastique des externalités négatives de la croissance et reposerait sur l'organisation de cercles vertueux de décroissance, comme on a pu parler de cercles vertueux de la croissance. Alors une politique de décroissance pourrait consister d'abord à réduire, voire à supprimer les externalités négatives de la croissance. C'est ce qui serait de moins douloureux pour les drogués. Cela va des dépenses de publicité à celles des médicaments contre le stress. La remise en question du volume considérable des déplacements des hommes et des marchandises qui a été systématiquement accru avec la mondialisation sur la planète, avec l'impact considérablement négatif sur l'environnement que l'on connaît, donc une relocalisation de l'économie. La remise en question des dépenses non moins considérables d'une publicité tapageuse, souvent néfaste, et aussi de l'obsolescence accélérée des produits et des appareils jetables, qui n'a d'autre justification que de faire tourner toujours plus vite cette méga-machine infernale de la croissance. Dans tout cela, donc, il y a en quelque sorte des réserves importantes de décroissance dans la consommation matérielle. Mais comment concevoir au-delà une véritable société de décroissance avec une décroissance cumulative et vertueuse? Essayons de... On dit quelquefois, mais vous voulez, on me l'a dit encore à RFI l'autre jour à une interview, vous voulez nous ramener à l'âge de pierre. J'ai pas eu le réflexe, j'aurais dû dire oui, si l'âge de pierre, c'est ce que raconte Marshall Salix, n'est-ce pas, la seule société d'abondance, après tout, pourquoi pas. Mais j'aurais plutôt un fait pour aller beaucoup plus en arrière que l'âge de pierre, revenir à la sympathique société des bonobos, vous savez, ces singes baiseurs qui font l'amour et pas la guerre, et qui avaient une culture évidemment plus évoluée que nous, malheureusement humains, nous avons perdu et que nous ne pouvons pas comprendre. Mais n'allons pas si loin, retournons à 1848. 1848, Marx pensait que les temps étaient venus pour la révolution sociale et que, s'il s'était planté, il l'a reconnu après, mais il pensait que cette révolution qui éclatait en 1948, ce serait la révolution comme c'était une possibilité de passage au communisme, que le système était mûr donc pour passer à une société à chacun où chacun pourrait satisfaire ses besoins. Comment pouvait-il avoir une telle illusion? C'est qu'il était témoin de l'incroyable, pour lui, à l'époque, en se replaçant dans cette époque, l'incroyable surproduction matérielle, en particulier surproduction matérielle de cotonnade et anglaise et de biens manufacturés. Et cette surproduction lui semblait plus que suffisante, une fois aboli le monopole du capital, pour nourrir, loger, vêtir correctement la classe ouvrière, au moins occidentale, la seule à laquelle Marx s'intéressait. Et pourtant, en 1848, la richesse matériel était infiniment moins grande qu'aujourd'hui. Le PNB s'est multiplié probablement, bon, d'après les calculs, de l'ordre d'entre eux 40 fois à 700 fois, ça dépend comment on prend les taux. Pas certains se sont amusés, Bertrand Jouvenel s'était amusé à faire des calculs comme ça avec des taux d'intérêt composés. Enfin, il avait calculé qu'avec une hausse du PNB par tête de 3-5 par an, ce qui est largement ce qu'on a connu pendant au moins les 30 glorieuses, eh bien, on aboutit en un siècle à une multiplication par 31 et en deux siècles par 961. Donc on vivrait 961 fois mieux deux siècles après la révolution industrielle qu'à ce taux. Hein. François Partant, de son côté, avait calculé, lui avec un taux plus fort de 10%, mais c'est le taux de croissance actuel de la Chine, qu'on obtient une multiplication par 736. En un siècle. Alors tous deux, bien sûr, dans leur sagesse profonde, concluaient à l'absurdité d'un bien-être 700 fois supérieur. Mais donc, notre bien-être serait 700 fois supérieur à celui que Marx a connu et qui pourtant lui semblait pouvoir déboucher sur une société communiste. En effet, il n'y avait de son temps, le malheureux, ni voiture, ni avion, ni plastique, ni machine à laver, ni frigidaire, ni ordinateur, ni biotechnologie, ni pesticides, ni engrais chimiques, ni énergie atomique. Mais justement, n'est-ce pas parce qu'il n'y avait pas tout ça que l'utopie semblait accessible ? En dépit des bouleversements inouïs de l'industrialisation, du temps de Marx, les besoins restaient encore modestes et leur satisfaction possible. Le bonheur quant à sa base matérielle semblait donc à portée de la main. Dans un livre beaucoup plus récent, écrit en 1994, Philippe Saint-Marc, dans son livre « L'économie barbare », fait un peu le même constat, mais à une échelle moindre, et nous donne l'image d'une société où tout le monde travaille, où tout le monde gagne à peu près sa vie, où il n'y a pas de chômeurs, ou presque pas, il n'y a presque personne en prison, il y a une grande sécurité, il y a beaucoup de etc. Eh bien, il dit, c'est la société, c'est tous ces indices, c'est les indices de la France de 1960, c'est la société que nous avons perdue dans les 30 dernières années. Ainsi comprise, la décroissance ne signifie donc pas nécessairement régression du bien-être, et sûrement pas du bonheur. La plupart des sagesses considéraient en effet que le bonheur se réalise dans la satisfaction d'un nombre judicieusement limité de besoins, hein, tandis que la société de croissance repose sur la fabrication accélérée de nouveaux besoins de façon exponentielle, tandis que les moyens de les satisfaire, eux, croissent de façon arithmétique. On pourrait au fond transposer la loi de Malthus à l'écart, les ciseaux entre les besoins et les moyens de satisfaction. Aménager la décroissance signifie en d'autres termes renoncer à l'imaginaire économique, c'est-à-dire à la croyance que plus égale mieux. C'est penser que le bien et le bonheur peuvent s'accomplir à moindre frais, redécouvrir en quelque sorte la richesse dans l'épanouissement des relations sociales conviviales, dans un monde plus sain. Donc tout cela peut se réaliser avec une certaine frugalité matérielle, ce que certains ont préconisé sous le slogan gandhien ou tolstoïen de simplicité volontaire. Mais il n'est pas nécessaire, encore ne faut-il pas se méprendre sur ces restrictions. Je n'ai rien contre l'ascèse, en tout cas l'ascèse des autres. Comme disait Guy Asnard, oui, invité, je ne pourrais pas dire son nom, invité à la maison des chômeurs à Tivy, alors il faisait un discours sur l'austérité ou la frugalité. Alors, les chômeurs un peu facétieux, le président dit, c'est pas très clair cette notion de frugalité ou de vérité. Alors, il y a un gars, ils avaient préparé leur coup. Allez donc regarder dans le Robert, qu'est-ce que ça signifie. Alors, dans le Robert, il dit, frugalité, restriction drastique de la consommation des classes populaires, préconisée par des intellectuels qui s'en foutent plein la lampe. Il y a beaucoup de ça. Non. Il ne s'agit sûrement pas, en tout cas, d'imposer une forme de vie ascétique. Mais, bien sûr, la question posée par Magid Ranema dans son beau livre « Quand la misère chasse la pauvreté » reste, me semble-t-il, quand même incontournable. Dans quelle mesure chacun de nous est-il prêt à résister dans sa vie quotidienne à la colonisation de besoins socialement fabriqués ? Il n'y a pas doute que si on ne met pas un terme à la croissance illimitée des besoins, il n'y a pas de décroissance possible. Pour concevoir la société de décroissance sereine et y accéder, il faut, c'est ça le plus important me semble-t-il, sortir de l'économie ou sortir l'économie de nos têtes. Hein, je dis toujours... Il y a un proverbe qui dit quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d'un clou. Eh bien, nous, hommes modernes, nous avons un marteau dans la tête, c'est l'économie. Nous voyons tous les problèmes sous la forme économique. Donc il convient d'enlever le marteau de la tête, c'est-à-dire remettre en cause la domination de l'économie sur le reste de la vie, en théorie et en pratique, et surtout donc dans nos têtes. Cela suppose une toute autre organisation, évidemment, dans laquelle le loisir et le jeu sont valorisés beaucoup plus que le travail, où les relations sociales priment sur la production et la consommation de produits jetables, inutiles, voire nuisibles. Alors ça implique bien sûr une réduction féroce du temps de travail. qui permettent d'assurer un emploi satisfaisant à tous. Déjà en 1981, donc ça fait 22 ans, hein, oui, Jacques Ellul, qu'on peut considérer comme l'un des premiers penseurs d'une société de décroissance, fixait comme objectif pour le travail pas plus de 2 heures par jour. Et je pense que si vous allez voir le beau film de Pierre Carl, Danger Travail, qui je vu est programmé dans les séances d'attaque, etc., eh bien, vous en serez convaincus.